Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion. Des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Barthas pour une nouvelle chronique d'Antidote. Alors je poursuis mon petit tour d'horizon des penseurs vraiment critiques et je vous propose de découvrir ou de redécouvrir aujourd'hui un auteur dont le nom fleure bon mai 68. En effet, ses écrits vont influencer de façon assez importante les étudiants qui vont y voir le support théorique à leur volonté révolutionnaire. Je veux parler ici d'Herbert Marcuse. Alors, comme pour tous les auteurs dont je vous parle cette année dans ces chroniques d'Antidote, on va essayer de voir, je vais vous laisser deviner d'ailleurs, en quoi la pensée de Marcuse peut faire écho au monde actuel. Alors, je commence quand même par quelques éléments biographiques. Herbert Marcuse, il est né en 1898 à Berlin, dans une famille de la grande bourgeoisie. Il va faire des études supérieures et il va obtenir sa thèse en 1922. À partir de 1928, il devient l'assistant de Martin Heidegger. Mais en fait, il est beaucoup plus influencé par les écrits, par les pensées conjointes de Marx et de Freud. En 1933, il rejoint avec Theodor Adorno l'Institut de recherche sociale aux États-Unis. Et il va travailler dans plusieurs universités américaines, en Amérique du Nord, pendant toute sa carrière. En fait, c'est à partir des années 60, dans le sillage des mouvements contestataires de cette époque, que ces ouvrages qui ont été écrits dans les années 50 et au début des années 60 vont être traduits dans plusieurs langues et qui vont être lus par un public beaucoup plus large. Et c'est comme ça qu'on va connaître Marcuse. Et il meurt en 79 en Bavière. Alors, pour comprendre la pensée de Marcuse, il faut se référer au contexte dans lequel celle-ci va se développer. Marcuse, il naît et grandit dans une Allemagne et une Europe chaotiques, tant sur le plan économique que sur le plan politique, mais surtout dont la croissance industrielle et urbaine modifie en profondeur la vie quotidienne de ses habitants. Il assiste dans les années 20 au déploiement d'un certain nombre de processus qui vont marquer durablement la physionomie de son pays et notamment des villes, des grandes villes. L'intensification du trafic automobile, l'électrification, la massification des pratiques de consommation, déjà, la diffusion des marchandises et de la publicité, l'expansion des loisirs de masse. Et Marcuse va y voir la mise en place d'un mode de production capitaliste et industriel dans lequel il va deviner de nouvelles formes de domination, mais également un nouveau rapport à la vie. Alors, à l'instar d'autres intellectuels de son époque, comme Simmel, Krakauer ou Walter Benjamin, il va s'attacher à questionner cette modernité, et notamment il va s'attacher à la questionner au travers de ses impacts dans la vie quotidienne des populations. C'est ce qui fait l'intérêt vraiment des ouvrages de Marcuse. Ils sont relativement simples à lire d'ailleurs. Et ça va lui permettre de développer deux concepts, deux idées, dont je vais tenter de vous donner les principales caractéristiques. Alors le premier concept, il le développe dans un premier temps, il va le développer bien sûr par la suite aussi, dans un ouvrage qui est paru en 1955 sous le titre « Eros et civilisation ». Alors dans cet ouvrage, Marcuse, il va s'intéresser à la dimension psychanalytique du couple domination-répression et aux formes que celles-ci prennent dans la société moderne. Alors, il va partir des analyses de Freud. Freud, il avait donné le fait que le principe de plaisir était totalement dominé par le principe de réalité. Et Marcuse va dire que ça a transformé ainsi l'homo faber, l'homme qui fabrique, qui crée, en animal laborans, en animal travailleur. Mais il va aller plus loin. Marcuse, il va noter que ce principe de réalité va donner naissance à un autre principe qui nomme le principe de rendement, qui est lui lié à l'émergence d'une société capitaliste techniquement rationnelle. Et ce principe de rendement va induire la perte de l'imagination créatrice et va induire de nouvelles formes de domination, parce qu'on va passer de l'autorité du père à la domination institutionnalisée, impersonnelle, de plus en plus rationalité, et qui va s'étendre dans le temps et dans l'espace. Je vais y revenir là-dessus, bien sûr. Parce que si la révolte contre le père, il nous dit, est possible, puisqu'il représente la figure de l'autorité non supportable mais dépassable, Marcuse note qu'il est impossible de se libérer de la domination de l'administration et des lois, parce qu'en fait, elles apparaissent comme les garants suprêmes de la liberté. Une liberté que la société moderne va traduire par l'accroissement sans fin de la consommation et par une idéologie du niveau de vie, puis plus tard, une idéologie des modes de vie, qui va devenir, et c'est toute la ruse du capitalisme, on le sait bien, le meilleur vecteur de la domination et de l'aliénation. Ainsi, ce qui est désigné comme participant à la libération de l'individu, avoir une voiture, fumer des cigarettes, sortir, etc., etc., consommer, donc qui est censé participer de sa libération, de sa désaliénation, participe en fait de la répression la plus difficile à contrer, parce qu'elle ne relève pas de la contrainte politique ou physique, mais d'une transformation progressive de l'homme en machine à consommer et, à terme, en domination de l'homme par la machine. Ainsi, nous dit Marcuse, le progrès, ce qu'on appelle le progrès, favorise en fait le contrôle social et l'autorépression, et les individus sont de plus en plus soumis à l'autorité anonyme de l'ordre social. Alors à partir de là, Marcuse, il va poursuivre sa pensée et il va développer au début des années 60 le concept de l'homme unidimensionnel. C'est le titre de son ouvrage principal paru en 1964. Il définit une société unidimensionnelle comme, je cite, « une société qui met au pas et intègre toutes les dimensions de l'existence privée et publique ». Ainsi, il constate la soumission volontaire des individus par la mobilisation et la manipulation de la libido, une libido qui va être développée dans les phénomènes de consommation et de publicité notamment, sans qu'il soit besoin pour cela d'installer des régimes autoritaires. Alors, voilà comment il exprime. Si l'ouvrier et son patron regardent le même programme de télévision, si la secrétaire s'habille aussi bien que la fille de son employeur, s'ils lisent le même journal, cette assimilation n'indique pas la disparition des classes. Elle indique au contraire à quel point les classes dominées participent aux besoins et aux satisfactions qui garantissent le maintien des classes dirigeantes. Les classes dominées ne trouvent en effet pas leur propre modèle, mais se conforment au modèle des classes dominantes et reproduisent par là même les schémas de la domination qu'elles subissent. Ainsi, poursuit Marcuse, derrière la possible amélioration du niveau de vie se cache une contrepartie qui n'est jamais énoncée, celle du contrôle accru et de plus en plus envahissant de la vie quotidienne. Alors je cite à nouveau Marcuse. Les gens habitent dans des appartements concentrationnaires et ont des voitures privées avec lesquelles ils ne peuvent plus s'échapper vers un monde différent. Ils ont d'énormes réfrigérateurs remplis de nourriture congelée. Ils ont des douzaines de journaux et de magazines qui affichent les mêmes valeurs. Ils ont des possibilités de choix innombrables, d'innombrables gadgets qui sont tous de la même espèce, qui les occupent et détournent leur attention de la vraie condition de leur société, qui les empêchent de se rendre compte qu'ils pourraient à la fois travailler moins et déterminer leurs propres besoins et leurs propres satisfactions. Et pour Marcuse, cette unidimensionnalité est une attaque radicale contre l'humanité. En confisquant la possibilité d'un choix conscient, la société dominante détermine non seulement le rapport de l'homme au travail et à la consommation, à l'objet devenu marchandise, mais aussi son rapport au temps libre et de façon générale son rapport à l'espace et au temps. Elle va même, cette société dominante, jusqu'à déterminer le rapport à l'autre, celui-ci, l'autre, devenant à son tour objet de consommation. Alors pour Marcuse, l'horizon politique d'une telle société est une société sans opposition réelle. Et on peut vérifier cela, déjà à son époque et encore plus certainement aujourd'hui, dans les propositions politiques des partis politiques qui se resserrent, s'uniformisent et qui participe à une spectacularisation de la politique, éloignant des fondements même du politique. Et la conclusion de Marcuse est sans appel, et je le cite à nouveau. De la manière dont elle a organisé sa base technologique, la société industrielle contemporaine tend au totalitarisme. Le totalitarisme n'est pas seulement une uniformisation politique, mais aussi une uniformisation technico-économique qui fonctionne en manipulant les besoins au nom d'un faux intérêt général. Une opposition efficace au système ne peut pas se produire dans ces conditions. Le totalitarisme n'est pas seulement le fait d'une forme de gouvernement spécifique ou d'un parti, il découle plus d'un système de production et de distribution parfaitement compatible avec le pluralisme des partis, des journaux ou avec la séparation des pouvoirs. Ainsi, pour Marcuse, la société de progrès technoscientifique et marchande s'oppose en tout point à l'idée d'une société démocratique. Pire que cela, elle crée l'illusion du bonheur et de la liberté qui entraîne par là l'autorépression et impose partout la réussite individuelle comme modèle de bonheur. Pourtant, Marcuse ne va pas renoncer à imaginer une possible libération de la société, une disparition de cette unidimensionnalité et la réémergence de l'homme. Et il va voir dans les mouvements de révolte des années 60, les révoltes étudiantes, mais aussi les révoltes dans certains ghettos américains, une force de rébellion. Et il va arriver à défendre l'idée de l'action directe comme seul moyen de résister au système. Alors si on analyse aujourd'hui ces écrits de Marcuse, et notamment cette dernière partie, c'est-à-dire là où il a imaginé qu'on pourrait sortir de tout ça, force est de constater que sur ce point, c'est difficile de lui donner raison, parce que la révolte permanente qu'il prônait ne s'est pas vraiment concrétisée. Non seulement les étudiants ne se révoltent plus vraiment, mais les ghettos et les parties les plus pauvres de la planète participent désormais activement au système de rendement. Et de même, l'art et les formes esthétiques ont été en grande partie absorbés par la technique et la consommation, par la société marchande. En fait, il semble que le XXIe siècle propose une réalité encore plus sombre que celle décrite par Marcuse, d'où les révoltes politiquement conscientes et émancipatrices s'éloignent, et où les technosciences décident des politiques humaines à long terme, et notamment les technosciences par leurs conséquences ultimes, c'est-à-dire que les conséquences des technosciences, comme les modifications environnementales structurelles, on parle aujourd'hui du climat, les pollutions, mais également l'organisation du travail, génèrent elles-mêmes de nouvelles technosciences qui vont décider encore plus des politiques humaines. Et finalement, d'unidimensionnel, tel que l'avait défini Marcuse, l'homme pourrait bien devenir superflu. Dans un système de consommation permanente et accélérée, et nous conduire vers le totalitarisme tant redouté par Marcuse. Il me semble donc important aujourd'hui d'étudier à nouveau frais la pensée de Marcuse, plus que jamais d'actualité, et je vous encourage à vous plonger dans la lecture, alors notamment des deux ouvrages dont je vous ai parlé, Eros et civilisation et l'homme unidimensionnel. Vous trouverez ces ouvrages auprès du fonds documentaire de Savoir en chantier, qui est situé dans les locaux de l'Encrier à Florac. Et bien entendu, vous pouvez vous les procurer en librairie. Je vous donne aussi les coordonnées de deux articles qui m'ont aidé à réaliser cette chronique, tous les deux rédigés par Patrick Vassor. Le premier, donc, dans l'ouvrage Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques, qui est sous le titre Herbert Marcuse, la vie unidimensionnelle. Et le deuxième, sous le titre simplement d'Herbert Marcuse, dans l'ouvrage 50 penseurs aux origines de la décroissance. Mais avant de vous quitter, je voudrais soumettre à votre réflexion trois phrases d'Herbert Marcuse, toutes tirées de son ouvrage « L'homme unidimensionnel » et qui me semblent particulièrement entrer en résonance avec notre société contemporaine. L'originalité de notre société réside dans l'utilisation de la technologie plutôt que de la terreur pour obtenir la cohésion des forces sociales dans un mouvement double, un fonctionnalisme écrasant et une amélioration croissante du standard de vie. Dans toute société qui est organisée et basée sur le machinisme, le fait brutal que la puissance physique de la machine est plus grande que celle de l'individu, de chaque groupe d'individus, explique que la machine soit l'instrument politique le plus efficace. Et enfin, une petite dernière. Les produits endoctrinent et conditionnent. Ils façonnent une fausse conscience insensible à ce qu'elle a de faux. Et quand ces produits avantageux deviennent accessibles à un plus grand nombre d'individus, dans des classes sociales plus nombreuses, les valeurs de la publicité créent une manière de vivre. C'est une manière de vivre meilleure qu'avant, et en tant que telle, elle se défend contre tout changement qualitatif. Ainsi prennent forme la pensée et les comportements unidimensionnels. Voilà de quoi réfléchir. Alors avant de vous quitter, d'abord je voulais vous rappeler que dimanche prochain, le 28 novembre à 18h à l'Encrier, il y aura une rencontre autour de l'auteur, de la philosophe Simone Veil, dont j'avais fait une chronique il y a quelque temps. Et puis on va se retrouver très bientôt pour une prochaine chronique. Alors là je vais vous parler, vous inviter à découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Lewis Mumford. Alors Lewis Mumford, il est auteur notamment d'un monumental et incontournable La cité à travers les siècles, mais aussi d'autres ouvrages, Technique et civilisation, qui est paru en 1934, ou encore Le mythe de la machine, qui date des années 70. Eh bien, il me reste à vous dire très bientôt sur les ondes de Radio Bartas.